Bonjour, c'est Romaric Briand. Vous écoutez La Cellule, podcast critique du jeu de rôle. Vous pouvez me soutenir en souscrivant à mon Patreon ou bien soutenir les auteurs et autrices de La Cellule en achetant leurs jeux. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast quasi-mensuel de la série. Aujourd'hui, je suis avec Guillaume Rioux. Guillaume, bonjour, ça va la pêche?
Bonjour, ça va, oui.
Alors Guillaume, on t'a aperçu dans les Twitch, donc les premiers mardis du mois à 21h, de temps en temps on fait un petit Twitch, vous le savez maintenant, chers auditeurs et auditrices. Et donc Guillaume, on a eu l'occasion de le recevoir dans le cadre du village.
Tout à fait.
Donc tu étais avec ton frère Thibaut.
Oui.
Et donc du coup, la première chose que je vais te demander, évidemment, pour les auditeurs auditrices qui ne te connaîtraient pas, c'est de te présenter. Qui es-tu, Guillaume Rioux, l'homme qui a fini le village, comme j'ai mis dans le titre de ce podcast. Alors, qui es-tu?
Eh ben moi, je travaille là depuis quelques temps là sur les jeux de rôle. J'ai découvert ça très tôt. Mon frère me faisait faire des jeux de rôle dont une partie de sa création.
T'as quel âge?
Moi, j'ai 28 ans.
C'est beau. C'est bon. Vas-y, continue, excuse-moi de t'avoir interrompu. Mais c'est intéressant quand même d'entendre aussi ton âge, on verra pourquoi.
Et donc, ouais. Donc voilà, moi j'ai redécouvert le jeu de rôle il y a peu sur des initiations faites par des magasins de jeux sur le Mans. Et suite à ça, je me suis mis à lire, à beaucoup écouter après des théories sur le jeu de rôle, notamment par La Cellule, par...
Des courants alternatifs,
ouais,
peut-être un petit
aussi
peu.
dans ces courants-là, et puis les voix d'Altaride, voilà, les différents podcasts qui existaient. Après, via PTG-PTB, avoir accès un peu aux traductions de courants théoriques américains.
Ouais.
Et puis après, plutôt des livres de game design plus, au sens plus large, quoi, comme Building Block of Tabletop. Voilà, différents livres qui traitent de ça. Parce que je suis plutôt attaché au côté un peu mécanique, création de système, notamment dans les jeux de société dans lesquels j'évolue depuis un moment, et puis là, plus récemment, dans les jeux de rôle.
Très intéressant donc, à voir aussi qu'avec ton frère, vous avez donné une conférence pour un événement que tu peux peut-être présenter.
Oui, on a travaillé sur le colloque pour les 50 ans du jeu de rôle à Paris. Il y en a eu deux cette année, il y en a eu un à Metz et un à Paris. Donc on a fait celui de Paris, on a présenté... Un travail de réflexion sur le game design et sur des nouvelles perspectives de game design, notamment essayer d'avoir une autre approche que celle de comment dire des modules un peu des patterns qui sont proposés plutôt majoritairement, et de travailler plutôt sur des opérateurs, c'est-à-dire un peu un degré en dessous, et donc de travailler sur vraiment comment on peut se questionner sur la nature des choses, la nature des éléments en jeu de rôle, et essayer de changer leur qualité, en fait, réfléchir
donc,
comment ils pourraient être
la
autrement.
Réflexion sous forme de pattern, c'est-à-dire de cycle, de boucle de gameplay.
Les patterns, en fait, ils sont surtout définis comme... c'est présenté par Zagal, notamment, comme des blocs qui sont tirés plutôt de l'architecture. Ils disent que leur inspiration, c'est Alexander, et donc qui détermine en fait des structures qui ont des fonctions. Par exemple, si on met de l'éclairage public, on va avoir une baisse de criminalité. Ça va être des choses qui sont développées dans l'architecture. Et le transpose dans le jeu plutôt sous forme, si ça fonctionne à ce moment-là, enfin, s'il y a quelque chose qui fonctionne dans un jeu, on considère que ça fonctionnera dans d'autres jeux, et on peut transposer en fait des blocs. C'est notamment développé par Kirk après. Et nous, on voulait, plutôt que d'avoir un peu cette approche de recyclage et de réutilisation, on voudrait plutôt donner des outils aux game designers plutôt que des processus finis, en fait, donner des outils pour qu'il puisse créer son propre processus.
Alors, rassure-toi, Guillaume, de toute façon, on aura l'occasion à La Cellule d'y revenir cette année avec ton frère Thibaut,
ouais,
qui viendra également. On en discutera notamment avec Valentin Touzeau, qui a des réponses à faire à votre article. Enfin, ça va être très intéressant, il va y avoir toute une discussion. Donc,
avec plaisir.
C'est pas aujourd'hui qu'on va parler de ça. Aujourd'hui, je voulais parler plus avec toi du village, bien entendu. Mais je trouve ça quand même passionnant, j'ai trouvé ça génial. Et aussi, je tiens à vous remercier, toi et ton frère, parce que vous vous avez aussi ça, remis en fait le Maelstrom sur le devant de la scène en fait, et ma théorie sur le devant de la scène à travers vos propres recherches. Donc j'ai beaucoup apprécié aussi le fait que vous ayez défoncé le Maelstrom comme vous l'avez fait, ou en tout cas corrigé, ou vous êtes venu me faire tout un tas de réflexions qui ont beaucoup enrichi.
Plus qu'une critique, ça a été vraiment une source en fait, ça a été une source d'inspiration, notamment sur la manière de penser la proposition qui est vraiment au cœur du Maelstrom. Et donc ça a été un socle un peu pour penser la proposition comme un élément central et qui articule en fait les différentes entités qui interagissent dans le jeu de rôle. Donc après ça a été nous, ça fait quand même longtemps aussi qu'on écoute la cellule, donc on a
biberonné.
Été très influencé par ça, ouais, c'est sûr. Ça a été, c'est une source d'inspiration parce qu'il y a une vraie ouverture à plein de types de jeux, il y a beaucoup de débats. Et donc, ça, qu'on soit d'accord ou pas, ça nourrit notre pensée, en fait.
Ben, merci beaucoup, Guillaume. C'est vraiment exactement le genre de retour que j'attendais avec en créant ce podcast. Ça fait très, très plaisir de t'accueillir, évidemment. Et très plaisir de voir aussi que les auditeurs, auditrices de la cellule puissent à leur tour en fait apporter leur brique aux théories du jeu de rôle, et comme vous le faites, enfin c'est formidable. Et la notion de proposition, donc, qui vient de la philosophie analytique, hein, qui est tout simplement la façon dont en tant que philosophe analytique on nous a appris finalement à travailler la philosophie. Donc en fait si tu veux, j'avais pas l'impression d'introduire dans le monde du jeu de rôle, quand j'ai introduit la notion de proposition dans le monde du jeu de rôle, j'avais pas l'impression de faire une grande révolution. Et c'est Valentin Touzeau en fait qui m'a permis de réaliser, m'a dit mais en fait cette façon de voir le jeu de rôle comme un ensemble de propositions qui vient justement de ton courant de pensée qui est donc la philosophie analytique, hein, philosophie du langage. Et bien en fait c'est ça ton vrai apport. Comment il disait ça? Ah, j'en me souviens plus. On aura l'occasion de toute façon d'en discuter avec Valentin justement, mais que voilà. En tout cas, c'était une façon en fait de faire de la philosophie analytique avec le jeu de rôle, du jeu de rôle avec la philosophie analytique.
Mais pour
c'est ça qui t'a plu en fait.
Ouais, il y a ça. Et puis pour rebondir là-dessus, je pense qu'on crée rien à partir de rien. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de créations par transposition. Et notamment des systèmes, des équilibres dynamiques, on peut vraiment les transposer d'un domaine à l'autre, on le voit dans la recherche scientifique, mais aussi dans le jeu, c'est un domaine qui est très propice à accueillir ces représentations-là, ces concepts-là, parce que, et notamment dans le jeu de rôle, comme il y a une faible matérialité,
ouais.
on n'est pas confronté à des freins physiques, on va dire, et bien c'est un espace de créativité qui est énorme de ce point de vue-là, parce qu'on peut vraiment... toutes les créations, toutes les inventions, elles peuvent tourner au profit du jeu en tant que... en fait, le jeu, pour moi, c'est une expérience en fait à conséquences limitées. Cette idée permet de transposer beaucoup de choses dedans.
Ouais, bah c'est, en fait, moi, je compare le jeu à ce que la gymnastique ou l'athlétisme est au sport. Enfin, même le sport, pardon, à ce que le sport est à la forme physique. C'est-à-dire que quand tu fais du sport, quand tu cours d'un point A à un point B, tu le fais pour renforcer tes muscles, pour le cas où un jour... cas pratique, et tu as besoin de courir, tu sais courir. Et tu sais courir pourquoi ? Parce que tu t'es exercé à faire du footing, du sport, etc. C'est-à-dire que l'activité sportive, c'est une activité qui n'a pas de but en soi, autre que de se renforcer au cas où un but en soi arriverait un jour et qu'on ait vraiment besoin d'utiliser sa puissance musculaire pour X ou Y raison, enfin, etc. Et pour moi, le jeu, c'est la même chose. C'est un entraînement dans un monde safe, un endroit où il n'y aura pas de conséquences, si j'ose dire, sur la réalité, pour exercer sa pensée. C'est une gymnastique d'esprit. En fait, on pourrait le dire comme ça, un peu comme la philosophie d'ailleurs et les mathématiques, qui sont aussi de la gymnastique d'esprit. Et de temps en temps, ces deux domaines trouvent des lieux d'application. Et à ce moment-là, donc on a une raison de faire ce qu'on fait. Mais en vrai, faire de la philosophie ou faire des mathématiques, en soi, si on cherche une raison de le faire, on ne le trouvera pas. C'est une fois qu'on applique en fait ces champs de recherche que là on trouve. Je ne sais pas si je suis clair.
Si, mais au-delà de l'approche individuelle,
le jeu,
pour moi, au-delà de l'approche d'entraînement que tu décris, ouais. Je pense qu'il y a aussi un aspect expérimentation sociale, c'est-à-dire que
ah oui.
le jeu, et notamment moi je le vois dans le jeu de société où on essaye de faire des systèmes qui soient justes pour tous les joueurs, des jeux qui soient équilibrés,
ouais.
Et on pourrait clairement le transposer à une construction sociale et à se dire quel serait le modèle le plus équitable, et on ne sait pas qui va jouer quoi en fait dans le jeu, chaque joueur pourra choisir son rôle. Et donc c'est un peu pour moi c'est la même chose que le voile d'ignorance de Rawls en fait, où on crée une société dans laquelle on ne sait pas quelle sera sa place, et le jeu actualise vraiment ça.
C'est génial. C'est génial. C'est une intuition que j'ai depuis des années, mais oui, effectivement, là, ça me fait plaisir de voir quelqu'un qui le pense et qui le défend. Ça fait plaisir. Tu sais que ça me fait très plaisir de te recevoir parce que ça, c'est, enfin, j'ai eu souvent l'impression de parler dans le désert. Heureusement, j'ai rencontré des amis formidables que tu as pu entendre dans les podcasts de la cellule qui m'ont montré que voilà, c'était pas inintéressant ce que je pensais, ce que je racontais et ce qu'on pensait, ce qu'on racontait d'ailleurs. Mais là, ça fait plaisir de te rencontrer pour voir aussi. Ouais, d'accord, ok. Ça a une portée en fait. Enfin, effectivement, moi, j'ai toujours vu le jeu comme un élément qui pouvait construire le social, qui pouvait construire la société, etc. Et ça fait plaisir. Je me souviens encore d'Antoine Morgenthaler qui vient avec son idée de l'essai sur le jeu de rôle, où il montre que justement, le jeu de rôle, c'est une matière éminemment politique, et etc. Enfin, c'est vraiment sympa. Génial, franchement génial. Donc il faut savoir que Guillaume et moi on se rencontre pour la première fois en vrai, hein, on a eu l'occasion d'échanger, mais
on
c'est
a
la
discuté
première
fois une fois en préparation en fait de notre intervention au colloque, parce qu'on voulait discuter, être sûr de pas trahir ta pensée aussi sur le maelstrom.
Aucun problème, tu la trahiras pas avec l'esprit dans lequel tu travailles, c'est pas possible. Tu peux la critiquer, tu peux l'amender, tu peux y réfléchir évidemment, mais je pense que c'est impossible de la trahir. T'as la bonne approche, c'est génial. Alors, je voulais parler plus précisément, parce qu'on aura l'occasion encore une fois d'y revenir avec Valentin et puis avec Thibaut. Je voulais parler donc avec toi du village, quoi.
Oui.
Alors, comment t'en es venu à jouer à ça? Donc, tu t'es dit, tiens, voilà le nouveau jeu de Romaric Bruyant, je vais le tester. Enfin, c'était...
Ouais, c'était à peu près ça. Hein. En fait, c'est mon frère qui l'a découvert le premier, donc qui me l'a partagé. Donc, on a joué un peu en dilettante au début, on a fait tourner le jeu, on a apprécié le côté approche qui mêlait à la fois l'aspect un peu solitaire des mineurs et puis
peut-être le présenter d'ailleurs, parce que les auditeurs auditrices
ouais,
te connaissent pas forcément.
On peut le présenter, le système du village, tu vas le présenter mieux que moi.
Ouais, j'en sais rien, alors là je suis pas sûr parce que je suis pas très bon. On a en face de nous donc un village qui est composé de 20 cartes à jouer, donc c'est une réussite, faut imaginer une réussite à la croisée des chemins entre la réussite et le démineur, le solitaire et le démineur, c'est ce que tu disais tout de suite Guillaume. On va étendre en fait, on va prendre un paquet de 52 cartes, c'est bien ça, il y a pas de joker, on mélange, on étend 20 cartes devant nous, en colonne de 5 fois 4,
ouais,
c'est 5 cartes.
Il y a 5 colonnes et 4 lignes.
Ouais, 5 colonnes et 4 lignes. Donc des lignes de 5 cartes. C'est bien ça,
ouais.
Je ne me trompe pas. Oui. Ou 4. Non, 5 cartes, puisqu'il y a une colonne centrale, justement. C'est l'essentiel du jeu. Donc voilà. Donc on va étendre des cartes comme ça devant nous et ça va constituer ce qu'on appelle le village. Et l'objectif, ça va être de retrouver les figures qui s'y trouvent. En sachant que certaines sont parties dans la colline, les cartes restantes, qui ne sont pas les cartes que vous avez étendues devant vous, chaque fois que vous retournez un villageois, que ce soit dans le village ou dans la colline, vous avez le droit de regarder une carte face cachée dans le village, et voilà. Et sinon, vous avez toujours le droit de retourner une carte dans le village, mais attention, les cartes qui ne sont pas des figures sont des mines qui explosent. Et donc, du coup, elles explosent les cartes qui sont autour d'elles. Alors, le pic, il explose la carte qui est au-dessus d'elle et en dessous d'elle. Le trèfle, il explose la carte qui est à sa droite, à sa gauche et la carte au-dessus. Le carreau, il explose les cartes qui sont, comment le dire,
en
à l'oral,
diagonale.
En diagonale, ouais, c'est-à-dire celle qui est au nord-est, au nord-ouest, au sud-ouest et au sud-est. Pas mal, ça. On a réussi à trouver un moyen. À l'oral, c'est pas mal. Et la dernière que j'ai oubliée, c'est le cœur qui, lui, est une mine qui finalement n'explose pas. Elle fait pchit, comme dirait Jacques Chirac. Donc voilà à peu près les. Donc le pic fait exploser en haut en bas, le trèfle à droite, à gauche, au-dessus, le carreau au nord-est, au nord-ouest, au sud-est, au sud-ouest. Donc 4 cartes quand même pour le carreau. Quand on retourne une mine de carreau, ça fait péter 4 cartes du village, donc c'est quand même dangereux. Et voilà. Et donc l'objectif, c'est évidemment de faire péter personne. Donc de regarder en amont les cartes qui sont cachées autour du carreau pour vérifier que quand on va retourner son carreau, on va pas le faire péter, voilà, etc. Tout en sachant que quand on retourne un carreau dans la colline, on a le droit de déplacer en diagonale deux cartes du village. Donc on peut déplacer des mines comme ça, les emmener un petit peu dans les coins du village pour éviter qu'elles affectent trop de personnes. Enfin voilà. En gros, le concept. Je vous invite à aller voir les vidéos Sur le village, il y a un Twitch où je joue au village et où j'explique les règles. Il y a un Twitch avec Guillaume et Thibault où on explique des stratégies de jeu. Il y a une vidéo YouTube dans laquelle on revient sur des parties aussi avec Darky et des stratégies de jeu avec Darky. Donc, vous tapez le village Romaric Briand dans YouTube. Voilà, vous trouverez toutes les vidéos Twitch et YouTube qui ont été consacrées au village et vous pourrez retrouver vos petits. Ceci fait, revenez sur ce podcast puisque Guillaume Rioux, qui est devant moi en ce moment, c'est quelqu'un qui a réussi à trouver beaucoup d'éléments mathématiques du village, si ce n'est tous, et donc à réussir à optimiser le village pour quasiment obtenir 100% village réussi, hein, Guillaume, je pense.
J'étais à 98, mais bon.
Vous êtes à 98%?
Ouais, ouais, quand je l'avais fait, là, j'avais fait une série de 50. Après, il y a des... Bah, je pense qu'il y a d'autres choses qui rentrent en compte aussi quand on y joue beaucoup. Moi, j'avais fait une session à peu près de un peu plus de 4 heures.
Ouais.
Et à un moment, il y a de la fatigue aussi. Et puis, il y a toujours des parts de hasard. Il est irréductible, mais ça permet en fait de créer d'autres enjeux. Enfin, quand on envisage d'autres éléments stratégiques, on peut déjà faire les villages qui semblaient impossibles, ils deviennent faisables.
Ouais.
Mais aussi, on peut jouer différemment, on peut jouer avec des handicaps, par exemple, en n'utilisant pas certaines figures. Et puis, dans ce qu'on avait trouvé aussi, on peut jouer en coopératif. Et ça, c'est assez sympa, où on joue là, plutôt avec la version carte matérielle, on va dire.
Mmh.
On joue face à face et on limite en limitant la communication. Ça permet d'avoir une autre approche et de diversifier un peu le
Donc
le
en
jeu.
Fait, une fois que tu as eu fini finalement de jouer au village tel qu'il est présenté encore une fois par Darky, parce que ce qu'on a oublié de dire, c'est qu'il existe deux versions du village en réalité. Il existe une version matérielle du village où on joue avec des cartes
oui.
concrètes et une version, un portage en fait qui a été fait par Darky, on rappelle hein, Darky, l'infographiste de tous les sites de romaricbriand.fr, hein, donc mon sidekick numérique. Donc il a fait un portage du village sur une des pages, donc romaricbriand.fr/le-village, hein, je crois. Et donc du coup, vous pouvez y jouer. Le truc, c'est que Darky a modifié une règle
oui.
qui, à mon avis, est essentielle pour comprendre la discussion qu'on est en train d'avoir, c'est que dans le village tel que Darky le propose, il y a nécessairement une figure qui pointe le bout de son nez
dans
les cinq premières cartes de la colline. Voilà. Et ça, c'est quand même vachement important parce que ça modifie les statistiques, les stratégies et compagnie. Je pense ouais. que si tu fais 50 parties de village en physique, il n'est pas certain que tu puisses
attendre. Je pense qu'on réussit moins, ouais. On a des moins bons taux de réussite.
Ouais. C'est sûr, puisque tu n'es pas convaincu, tu n'es pas certain d'avoir ta figure dans les 5 premières cartes, ce qui quand même est une modification d'importance. Même si je pense que c'est discutable, parce que même si tu n'as pas une figure dans les 5 premières cartes, le fait que tu aies une figure dans les 5 premières cartes n'empêche pas une série de 10 cartes derrière sans figure, tu vois ouais. ce que je veux dire ? Et je ne suis pas certain qu'avec une seule information dans le village, ce soit suffisant pour...
Pour nous, on faisait un minimum 2 figures
voilà.
Pour minimiser le risque. Et après, et on va dire de manière... optimal, il faut 3 figures et là on peut vraiment développer nos stratégies en constituant en fait des zones, ce qu'on appelle des zones sûres, c'est-à-dire des zones où on est certain qu'il n'y ait pas de figure à risque et qu'on puisse retourner des cartes sans en avoir connaissance préalable.
Ce que avec Darky on appelait aplanir une motte.
Des mottes.
Ah ouais, les mottes. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on va aménager un coin de village dans lequel il ne va y avoir que des cartes
ouais.
pour en fait y faire péter des mines.
Ouais, voilà, on utilise les points en fait un peu comme des sacs de sable quoi, si on veut filer la métaphore.
Ouais, c'est exactement ça.
Et donc ça nous permet d'utiliser les mouvements. Non seulement pour écarter les figures, mais aussi pour permettre de retourner des cartes sans en avoir connaissance, et donc d'épargner les indices donnés par les figures.
Alors statistiquement, vous avez réussi à résoudre quelques problèmes qu'on se posait avec Darky. Premier problème qu'on se posait avec Darky, c'était est-ce qu'un jour, une intelligence artificielle qui aurait appris à jouer au village serait capable d'obtenir 100% village sauvé ? Mon intuition, c'était que c'était possible, c'est-à-dire qu'une intelligence artificielle réussissait à tous les coups. Darky disait non, c'est pas possible, ne serait-ce que parce qu'il y a des villages qui sont impossibles, par exemple le village où on n'a aucune information et où toutes les figures sont au fond, ou ce genre de choses.
Il y en a qui sont à risque, ouais. Il y a des villages où vraiment, il y a un moment, on était à une chance sur deux, mais sur la toute fin, quoi, sur la dernière carte. Donc, je pense qu'on ne peut pas supprimer le risque, et heureusement, sinon, on supprimerait le jeu. Mais par contre, on peut le diminuer et le rendre vraiment stratégique.
Alors du coup, la réponse c'est que comment dire, Darky a raison. Finalement, c'est que en fait, une IA même bien entraînée sur le village ne réussirait pas à résoudre tous les villages. Et
Après,
forcément.
on ne prétend pas avoir tout identifié, il y a peut-être encore des mystères
Alors
dans le
franchement,
village.
quand on regarde, excuse-moi, mais quand on regarde le document fonctionnel que vous avez fourni avec Thibaut, je mets au défi n'importe lequel de nos auditeurs auditrices de faire un truc mieux que ça. Hein. Franchement, c'était, on l'a regardé, on l'a épluché. Je ne sais pas s'il est encore en ligne. Il est sur le forum ou pas?
Je sais pas si tu l'as posté. Je pense que tu avais dit que tu le posterais à la rentrée.
Et
Je sais
je
pas
l'ai
si tu
pas
l'as
fait.
posté
Et ben, ce
encore.
sera l'occasion de ce. Très bien. Ce sera l'occasion de la diffusion de cette émission. Je vous invite donc à consulter ce document. Il est vraiment très complet. Vous avez nommé les cases un peu comme aux échecs. Vous avez donc pour donner une visualisation de toutes vos stratégies.
On a fait une notation type tableau Excel, mais
Ouais.
ce qui avait un peu déboussolé Darky au moment, parce que c'est pas forcément les notations les plus conventionnelles en jeu.
Ben, c'est pas mal.
Mais voilà.
Et puis bon après si jamais vous avez des difficultés à comment dire à envisager en fait le document parce que c'est vrai que nous là, quand on l'a reçu avec Darky on a un peu halluciné hein, on s'est dit mais non mais on va jamais rien comprendre à ce truc là au final j'ai commencé à lire j'attendais chez le coiffeur enfin, les gens ils se disaient mais qu'est-ce qu'il lit le mec il y avait des cartes il y avait des stats enfin c'était n'importe quoi et c'était rigolo de voir la tête des personnes âgées qui étaient autour parce qu'en même temps c'était des cartes alors je voyais bien qu'ils regardaient parce que ça les intéressait les cartes forcément les personnes âgées elles jouent beaucoup et puis au bridge et puis à la belote et à tous ces jeux-là donc ça les intéressait ils se disaient mais qu'est-ce que c'est il quoi là un truc sur le poker enfin, voilà. C'était rigolo j'ai vécu une scène avec ce truc incroyable et donc du coup c'était vraiment difficile à comprendre mais au final j'ai réussi à comprendre et puis après donc on a fait ce Twitch tous ensemble et puis là vraiment tout s'est éclairci avec les exemples avec tout ça donc si vous êtes un peu allergique à ce type de document n'hésitez pas à aller voir le Twitch voilà donc première question à laquelle enfin, je pense que vous avez résolu, c'est cette histoire des est-ce que les IA peuvent apprendre à jouer de façon à 100% au village? Il y a toujours une part de risque, même si elle est minimisée,
Sûrement, ouais.
même
Je
si elle est
pense qu'il y a une
faible.
part de risque. Après, on joue peut-être moins bien que des IA, je sais pas.
Oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on peut toujours. Ouais, peut-être qu'elles vont découvrir des éléments du village. Ah ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Donc en fait, on sait pas, en fait, on sait pas.
On
Même
ne sait
si
pas,
on...
ça reste
Ça
mystérieux, ouais.
reste mystérieux, ok. Donc ça reste quelque chose à faire, hein, si Michel nous écoute ou si quelqu'un qui aime bien coder des IA, des réseaux de neurones nous écoute, ça reste quelque chose à faire de voir ce que les IA donneraient sur le village. En tout cas, on approche quand même, on est quand même vachement proche du je pense qu'on sera proche du 100%, hein, on sera à 98-99% de village réussi. Sur la version de Darky, encore une fois. On ne sait pas exactement pour la version. On ne peut pas entraîner des IA sur la version physique du village, même si on pourrait faire sauter cette règle des cinq premières figures pour exercer une IA sur le programme. Mais bon, voilà. Donc ça, c'était la première question. La deuxième question, c'est est-ce qu'il faut retourner tout de suite les figures? Comme vous le savez, donc quand par exemple vous retournez une figure du village, vous avez le droit de regarder une carte face cachée du village. Et de temps en temps, vous tombez sur une mine, évidemment, donc vous dites, oh attention, ça pue, cette carte-là, faut pas que je la retourne, c'est une mine de carreau, par exemple. Ou parfois, vous tombez sur un villageois, carrément. Et donc vous regardez, et en fait, vous découvrez que sous la carte que vous êtes en train de regarder, il y a un valet de cœur, et donc c'est un des villageois. Et vous avez le droit de retourner ce villageois pour avoir le droit de regarder une autre carte face cachée. Et une question qu'on se posait avec Darky, c'était, est-ce qu'il faut forcément regarder immédiatement, c'est-à-dire prendre l'information tout de suite, ou est-ce qu'on peut la laisser de côté et attendre un peu? Et là, je pense que vous avez clairement répondu que...
Ça dépend des situations de jeu, mais la plupart du temps, ça vaut le coup de temporiser les figures, on le nommait comme ça,
Voilà.
parce que pour plusieurs raisons, il y a certaines cartes, par exemple pour finir ce qu'on appelait des murs de coin, c'est-à-dire quand il y a trois cartes qui entourent une carte en coin et donc qui permettent de la
Les
révéler
sacs de
sans
sable,
risque,
ouais.
voilà, trois sacs de sable.
Ouais.
Et parfois, quand il manque juste un sac de sable au coin, on va être tenté, quand on a une figure, de tout de suite vouloir compléter. Mais s'il y a un autre sac de sable qui est adjacent à la carte qui manque, on peut obtenir le même résultat avec un mouvement, et les mouvements sont quand même plus fréquents, nombreux, ouais. Voilà, plus fréquents que les figures.
Que les informations.
Donc parfois, il faut juste se souvenir de l'endroit où est la figure et l'utiliser pour un moment plus critique. L'autre chose, c'est que parfois, quand la figure est elle-même au contact d'une mine, on va attendre de déplacer la figure et a posteriori de retourner la figure pour savoir avec quelle carte elle a été échangée. Ce qui laisse globalement plus d'optimisation de mouvement, parce que si on révèle une carte adjacente à la figure, mais qu'on n'est pas sûr de pouvoir amener cette carte avec le mouvement correspondant, on va perdre en fait du temps. Et ce qui va être important, parce que tous les coups qu'on va perdre, ça va être des mouvements qui ne seront pas utilisés. Et le but, c'est vraiment de rentabiliser au maximum les mouvements dès qu'on peut agencer les sacs de sable.
Ouais. Ce que je trouve fascinant, c'est quand on regarde donc des débutants jouer au village, c'est là qu'on réalise tous les coups perdus. C'est-à-dire que, par exemple, beaucoup de débutants voient une mine de pique, par exemple, à un endroit, et ils vont aller regarder les cartes au-dessus et en dessous pour la faire péter. Ça, c'est un comportement de débutant que tu vois tout le temps, ce qui est complètement sous-optimal à fond, parce que par tout le moment, on sait que c'est une mine de pique, on sait que c'est un sac de sable, pour reprendre ton expression, et donc on va pouvoir en fait la caler autour de n'importe quelle autre mine, au final on s'en fout, pour faire péter. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un apport, comment dire, vous avez démontré en fait l'inanité, je sais pas, le non-sens de ce type d'erreur, quoi. Donc ça, je trouve ça déjà vachement intéressant. Et donc l'usage des figures, du coup, d'optimiser en fait le moment où on les retourne, en gros, la plupart du temps, il faudra ne pas les utiliser tout de suite.
La plupart du temps, oui. Sauf au tout début, ça peut, quand on... Nous, notre ouverture, en gros, c'est d'ouvrir les cartes qui sont qui vont être proches des cartes immédiatement dans le coin.
Dans le coin supérieur.
Dans le coin supérieur.
Non, non.
On peut y revenir après.
Ouais.
Et quand on révèle d'emblée une figure, on se dit qu'on peut simplement changer de coin, en fait, et utiliser cette figure-là pour faire une ouverture dans le coin opposé. Et qu'on n'a pas de raison de les temporiser. Mais en cours de jeu, en effet, souvent c'est mieux d'attendre un petit peu une situation optimale pour les retourner.
Pour les retourner. Donc, rapidement, pour résumer la stratégie de Guillaume et Thibault en ouverture, donc on va chercher à faire un coin, donc un des deux coins supérieurs, soit le coin gauche, soit le coin droit.
Ouais.
Les deux sont équitablement valables, enfin, sont valables tous les deux. Alors pourquoi le coin supérieur ?
Alors parce que à cause du trèfle qui va faire exploser à la fois les cartes à gauche et à droite et la carte supérieure.
Voilà.
Et donc si on emploie les coins supérieurs, c'est parce que quelle que soit la carte qui sera en coin supérieur, si c'est un carreau, un carreau, un pic ou un trèfle, elle ne fera exploser au maximum qu'une carte.
Voilà, le pic fera exploser. Regardez, si vous prenez le coin supérieur gauche, visualisez, d'accord, vous avez un carré de cartes posé devant vous. On prend le coin supérieur gauche, si c'est un pic, ça fait péter qu'une carte, celle du dessous. Si c'est un trèfle, ça fait péter qu'une carte, celle de droite. Si c'est un carreau, ça ne fait péter qu'une carte, celle qui est sur la diagonale sud. Est,
sud-est,
et le cœur ça fait rien, et la figure ça permet de révéler. Donc en fait on a quand même très peu de chances de faire péter quelque chose, quoi.
On réduit, et puis ça permet aussi à un moment, si on a des difficultés pour avoir les figures espérées, on peut prendre des risques en faisant ce que vous appeliez des portes avec Darky.
Ouais.
En faisant en fait, en agençant deux sacs de sable adjacents à la carte en coin, et selon les manières dont on les dispose, on permet de sécuriser certaines cartes. Par exemple, si on a un sac de sable en dessous, on sait que si on retourne un pic,
un
on prend pas de risque. Si
oui,
on a les deux, si on est juste en dessous, si
oui.
On a sud et sud-est, on sait que avec pic et carreau, on prend pas de risque,
voilà.
Et qu'on a seulement un risque à trèfle, et ça permet encore une fois de diminuer le risque.
Exactement, tout à fait. Et alors, vous voyez la différence entre commencer par le bas, par exemple, parce que si on commence par le bas, mais ça, les débutants, on spoile rien, parce que la plupart des débutants le comprennent quasiment
bien
tout
sûr.
De suite. Hein. C'est une des premières intuitions qu'on a. Si on commence par le bas, regardez, si je commence donc dans le coin inférieur bas, par exemple à gauche, si je fais péter du trèfle, j'ai deux cartes en fait qui explosent. Si j'ai du pique, j'en ai qu'une seule, si j'ai du carreau, une seule aussi, mais si j'ai du trèfle, j'en ai deux. Donc du coup, la nature du trèfle fait qu'on va commencer par le haut du village. Hein.
C'est ça.
Voilà.
Et ce qui va nous permettre dans un deuxième temps, une fois que les figures seront révélées, de les amener vers le bas.
Alors voilà.
Et de descendre les figures et de faire donc remonter les cartes inconnues qui sont potentiellement des mines. Et de réduire aussi leur risque. L'idée, c'est vraiment c'est vraiment un jeu topographique où finalement on va utiliser la topographie initialement et on va la reconfigurer sans cesse pour diminuer à chaque fois le risque.
Allez, exactement. Alors tu viens de répondre à la troisième question, donc et dernière question qu'on se pose avec Darky, c'est que faire des figures. quelle est la stratégie optimale vis-à-vis des figures. Et là, tu viens de dire, en effet, descendre.
Plutôt les faire descendre.
Pourquoi ?
Après, bah parce qu'une fois qu'elles sont descendues, elles sont aussi moins risques pour le trèfle, et ça permet de faire remonter des potentielles mines vers le haut et de réutiliser la même logique de porte qu'on a utilisée pour l'ouverture. Il y a des exceptions, il y a des moments où s'il y a beaucoup trop de figures en haut, ça va nous coûter trop de mouvements, et ces mouvements-là, ils peuvent être utilisés pour au contraire faire des, ce qu'on appelait des zones sûres, là, des endroits
des
entourés
yeux,
de sacs de sable.
Ouais.
Et donc ça va, la logique, c'est toujours de rentabiliser les mouvements, et donc si c'est trop encombré, à ce moment-là, ça peut arriver qu'on les range dans un coin et qu'on condamne un coin, entre guillemets, et qu'on mette toutes les figures ici en sachant qu'on ne pourra plus l'exploiter pour
c'est
faire
rare,
exploser
c'est
des
rare ça ou ça arrive souvent?
Moi je trouve que ça arrive pas très souvent, ça doit arriver peut-être une partie sur 10 peut-être ou sur 15.
Vois, j'aurais pas imaginé, je pensais que ça arrivait plus souvent que ça. Okay.
Moi j'ai moins l'impression, après je sais pas, j'ai peut-être pas joué assez encore.
Tu rigoles, n'importe quoi.
Et après on peut les centrer aussi, les mettre plutôt vers le centre pour la même logique, on dégage les coins, en fait on les rend disponibles. Il nous faut 4 cartes pour faire une place sûre dans les coins supérieurs.
C'est génial. Moi j'adore le fait, en fait bon, moi j'avais toujours imaginé le village comme une peinture de Gauguin machin, enfin tu sais dans les vidéos YouTube sur le village, je sais pas si t'avais vu que le générique c'était que des peintures comme ça de village.
Okay.
Dans la montagne en Provence,
ouais,
enfin
ouais,
voilà, j'ai toujours imaginé ça comme ça, avec effectivement le sommet, donc on part du haut de la montagne et on descend en fait, et le fait que les figures soient évacuées vers le bas, ça me va parfaitement dans l'esthétique du jeu.
Ouais.
Si tu veux, je suis très heureux. C'est un hasard, évidemment. J'avais pas du tout prévu. Hein. J'ai créé un jeu sans connaître le document fonctionnel que vous avez produit avec Thibaut. Mais je suis très heureux que ce soit la conclusion. Tu vois, de faire descendre les figures, de les bouger comme ça, de les sortir. En plus, il y a un côté. J'avais espéré, honnêtement, quand j'ai créé le jeu, que les figures se retrouvent toujours à l'extérieur du village. C'est-à-dire
ouais.
qu'au fur et à mesure, en tant que des mineurs, on soit amené à les sortir. Mais donc, j'avais peur que la stratégie optimale consiste à les mettre au centre, parce que j'aurais trouvé que c'était pas tellement cohérent, même si on pouvait imaginer une espèce de grande place où on met tous les villageois, ça le faisait. Mais le fait qu'on les sorte vers l'extérieur, esthétiquement, ça me convenait parfaitement. Donc la conclusion de votre recherche me plaît beaucoup.
C'est roleplay, quoi.
C'est roleplay, c'est ça, exactement, t'as tout compris. Donc voilà, esthétiquement, je trouvais ça vraiment sympa. Et puis, la dernière chose sur laquelle je voulais revenir avec toi avant de clore cette émission sur le village. Je sais pas, si t'as des choses, des commentaires à faire, n'hésite pas à ajouter des choses. Mais c'est que malgré tout, même si on a titré Guillaume Rioux l'homme qui a fini le village, malgré tout, c'est ce que tu disais, c'est que c'est pas parce qu'on a toutes les compétences théoriques du village que ça reste pas un jeu agréable et plaisant à jouer pour autant.
Ouais, parce qu'il reste un certain feeling quand même. Et puis, c'est pas parce qu'on a une méthode que finalement le jeu va perdre de sa saveur aussi, parce que ça va être se poser sur chaque situation, optimiser les choix, faire. Et puis, il y a plusieurs manières de jouer. On peut jouer plutôt en optimisant un peu les cartes qui restent, vraiment avoir cette idée de probabilité pour chaque mine, qu'elle soit présente ou pas. On peut avoir plus une réflexion purement topographique où on se dit, bah, nous, on joue que à coup sûr. Bah, on peut choisir un peu des manières de jouer plus ou moins à risque. On peut se fixer des objectifs aussi, de se dire, bah, j'aimerais bien finir avec tant de cartes dans la colline, ou
ouais.
se finir avec tant de figures qui n'ont pas été utilisées. Ça peut être assez sympa de
donc
se mettre
du coup, là tu te lances des défis.
Ouais.
Mais sur le jeu de base normal, moi je suis désolé, hein, mais je connais le document fonctionnel, je connais ta technique. Il m'arrive de temps en temps, alors truc énorme, hein, parce que récemment je me suis refait pas mal de villages, et y a des moments où j'arrive pas à appliquer votre technique.
Okay.
C'est-à-dire que je me dis, non mais là, ma technique à moi, donc moi j'ai une technique d'évacuation par le centre puis vers le bas, donc j'ai en deux temps, et en plus avec des ouvertures qui ne sont pas des ouvertures de coin, c'est-à-dire que moi je commence toujours par explorer la colonne du milieu du village.
D'accord.
Donc moi je sécurise en fait la colonne du milieu, et je m'étends en fait de part et d'autre.
Ok.
Parce que j'ai noté que quand la colonne du milieu est sécurisée, une fois que tu as un carreau ou un trèfle, en fait tu peux très facilement déplacer et produire
ouais,
des zones safe ou des portes, etc.
T'as plus de potentialité pour tes
Et donc
tes
si tu veux, moi j'ai appris à jouer tous mes records sur le village, je les ai fait comme ça. Et donc, du coup, pendant des années, pendant des mois, j'ai joué comme ça. Et ben, quand j'applique votre méthode, il m'arrive de faire des erreurs de calcul, c'est-à-dire de retourner sur mon quant à moi. Et tu vois, et ce qui est rigolo, c'est que quand on mélange les deux méthodes, ça marche pas. C'est-à-dire que si parfois je me dis, allez, je fais mon Romaric, je joue comme Romaric, et après je me rappelle de mon Thibaut et mon Guillaume, et tac, je modifie un truc, et ben l'autre jour je suis tombé sur un vide, je me suis foutu dans la merde, à la fin j'avais trop de cartes dedans, j'ai fait putain, mais comment j'ai réussi à mettre. Parce que j'ai shifté. Donc ça veut bien dire qu'il y a une espèce de tournure d'esprit malgré tout, qu'il y a des méthodes qui vont convenir à certains types de joueurs, et d'autres méthodes pour d'autres. Enfin, je sais pas comment.
Et puis peut-être, si tu choisis une méthode, peut-être que le mieux c'est de s'y tenir, parce que, au moins le long d'une partie, parce que sinon tu vas t'engager dans une certaine configuration et que tu vas pas pouvoir récupérer avec une autre méthode.
J'ai l'impression qu'il n'y a pas de recette toute faite, si tu veux.
Probablement pas. Celle-là, elle nous convient. Voilà. On voit qu'on l'a développée et qu'elle fonctionne. Mais après, je pense qu'il y en a d'autres. Et ce que tu dis d'avoir une colonne où tu peux après déplacer dans tous les sens, avoir beaucoup de potentialités, c'est une autre façon d'exploiter les mouvements.
Et alors après, moi, j'avais noté un truc, c'est que votre méthode a l'air de vous consommer beaucoup moins d'énergie que moi. Parce qu'il y a ça aussi. Il y a, oui, est-ce que c'est une bonne méthode? Mais surtout, quelle énergie on consomme pour la méthode? Parce que on s'était fait la réflexion avec Darky. Darky, il fait une partie en 30 secondes. Moi, je fais une partie, il me faut 5 minutes. On avait filmé deux parties, d'ailleurs. On n'a jamais diffusé ça, mais on en avait discuté un petit peu dans la vidéo YouTube. Y a un côté... moi, ma méthode, elle est ultra... cérébralement, elle est cérébrophage, si j'ose dire. Tu vois, elle nécessite de réfléchir énormément de faire processer. Et donc, à la fin, on est fatigué. Moi, je me souviens que j'avais fait les 20 villages d'affilée. J'avais vraiment, à la fin, j'avais fait 23 villages d'affilée. Je n'en pouvais plus.
Je comprends.
J'avais mis 4h30 à faire 23 villages, tu vois. Donc, il y a ça aussi. C'est-à-dire que, est-ce que la méthode est efficace, quelque part? J'ai l'impression que votre méthode est très efficace.
Le fait d'avoir des principes directeurs, je pense que c'est une économie d'esprit, ouais. T'as pas à te poser la question à chaque situation. Même si c'est pas complètement procédural, ça te donne au moins des grandes lignes et te dire, quel est mon meilleur coup, quoi, au moins orienter tes meilleurs choix.
Et ce qui est rigolo, c'est que même quand on a une méthode, malgré tout, ça reste un jeu intéressant, le village, parce que ce soit la mienne ou la vôtre, parce que en fait, à chaque instant, on est obligé de regarder tout. C'est-à-dire qu'il y a quand même une dimension, et c'est pour ça qu'il y a du risque encore. Tu disais tout à l'heure, oui, il y a encore une part de risque. Mais pourquoi? Parce qu'on peut se planter au moment où on fait ses calculs. C'est-à-dire que tu regardes ce qui reste dans la colline, tu regardes, tu te souviens de ce qu'il y a. Alors vous mettez des cartes pour vous souvenir.
Souvent en indice, ouais.
Ouais, mais c'est bien. Enfin,
des fois, on joue à la mémoire, mais des fois, on est fatigué.
Mais voilà. Attends, en tout cas, il y a une erreur possible, quoi. C'est-à-dire que même une fois qu'on a toutes les méthodes et tout, on peut se planter, quoi.
Et parfois, tu as des situations où le bénéfice n'est pas évident, où tu te dis, est-ce que ce mouvement-là, je le joue maintenant parce que je me dis que je vais gagner du temps après, ou est-ce que, comme il est encore fréquent, je vais jouer autre chose. Enfin, c'est pas toujours... Les situations sont quand même pas toujours évidentes, donc tu gardes toujours une agentivité, quelle que soit ta méthode.
Mais c'est vrai que c'est... Parce que moi, je ne te cache pas que quand j'ai vu l'article sortir, je me suis dit... Enfin, quand vous nous avez envoyé les documents, je me suis dit, merde, le village est nul. Tu vois, la première réflexion que tu te dis en tant que créateur de jeu, c'est un peu le côté puissance 4, quoi. Puissance 4, un jeu fini. Tout le monde sait que le coup optimal aujourd'hui, c'est de jouer dans la colonne du centre, parce que sinon tu c'est sous. Enfin voilà, donc t'as une méthode en fait, et donc le jeu quelque part il est fini au sens où ça sert un peu à rien d'y jouer. Il y a que les enfants qui apprennent à jouer comme ça ou à être attentifs de cette façon-là, qui connaissent pas. En fait, il faut ne pas connaître le coup optimal pour jouer au puissance 4, tu vois. Et j'avais peur que le village finisse comme ça. Et au final, pas du tout.
Pour moi, non. Enfin, j'ai toujours plaisir à y jouer de temps en temps. Ouais.
Donc ça me, à titre personnel, en tant qu'auteur du jeu, si tu veux, ça me rassure un peu. J'avais peur que tu viennes tout casser.
Pas du tout.
Et ben merci beaucoup Guillaume, est-ce que tu avais des choses à ajouter sur le village?
Je pense pas. Après, si les gens lisent le document, moi je serais surtout curieux d'avoir des retours sur le document en général, mais aussi sur les parties coop qu'on a un peu développées, mais pas pas sur du très long
sur
terme.
Les variantes,
ouais,
sur les variantes,
ça, ce serait intéressant. S'il y a des gens qui jouent en duo au village, voir comment ils procèdent, est-ce qu'ils y trouvent de l'intérêt, etc. Sur ces variantes-là, ouais, ce serait intéressant d'avoir des retours.
Alors, je pense que si tu veux des retours là-dessus, parce que nous, on les avait lues, les variantes, on en a tenté certaines, et en fait, on n'était pas certain de comment on y jouait. Bon, je sais que la version coop, on a voulu la tester. Donc, en fait, je pense que le mieux, ce serait quand vous allez venir avec Thibaut à la maison, ce serait qu'on les playtest ensemble et qu'on
plaisir.
En fasse des retours dans les micros.
Et peut-être
fois,
mieux rerédiger les règles parce que c'est aussi des choses qu'on a rédigées à la fin. Parce que tu vois, le premier document qu'on t'avait envoyé, on l'a complètement repris après le Twitch qu'on avait fait pour essayer de le clarifier, etc.
Ah bah donc c'est peut-être pour ça, alors faut que je regarde.
Et les parties duo, on les avait rajoutées aussi à la fin, donc on n'a pas... on a eu une deuxième lecture, mais on n'a pas eu vraiment, on n'a pas retravaillé.
Parce que
cette
je sais qu'on avait essayé, une fois avec qui on avait fait ça. Je me demande si c'était pas avec Soren, avec mon fils, on avait essayé de faire une partie coop et en fait on n'avait pas compris, enfin on comprenait pas quoi, on savait pas trop ce qu'on devait faire et tout, donc peut-être, mais on avait peut-être le tout premier document.
Mais sur
c'était
sur
au
le
début.
Dernier, on l'a complètement refondu pour qu'il soit plus clarifié.
C'est ça.
Donc,
okay.
Donc on
mais en
tenter,
tout cas,
ouais.
je pense que le playtester devant caméra. Montrer comment on y joue, montrer les réactions que ça produit sur les joueurs, éventuellement même les débriefer dans les micros, ça peut être intéressant pour avoir d'autres types de retours, je pense.
Ouais, carrément.
Parce que d'expérience, je peux te dire que les variantes, si tu les montres pas, si tu les gens d'abord ils jouent au jeu normal quoi, tu vois, il y a un côté.
Ouais.
Donc voilà, ok, très bien. Et bah ouais, moi aussi je serais très curieux de voir ce que ça peut donner en coop et tout. J'ai vraiment envie de tester. Merci beaucoup, Guillaume.
Merci, Romaric.
À très bientôt. On se retrouve avec Guillaume et Thibaut la prochaine fois pour parler de... Enfin, pas la semaine prochaine. Hein. Je pense que... Parce que le week-end avec vous n'est toujours pas organisé. On ne sait toujours pas quand est-ce qu'on va se faire
on
ça.
On va planifier ça.
Ouais, il faut qu'on planifie ça. Mais voilà. Mais en tout cas, on se retrouvera très bientôt pour discuter théorie de jeu de rôle. Parce que vous allez voir, Guillaume et Thibaut, ils en ont sous le capot. Allez, à très bientôt tout le monde. Portez-vous bien. Jouez bien. À bientôt.
Jouez bien.
Voilà, c'était le podcast de la cellule. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner. À très bientôt.